Le tableau des passions humaines est une réalité naturelle, de la philosophie naturelle. C'est-à-dire que vous le retrouvez dans tous les peuples. Et c'est une des vérités transcendantes. C'est la nature humaine telle qu'elle est, et vraiment telle qu'elle est. Toutes vos réactions, tout ce que vous êtes en tant qu'être humain, viennent de ce... Tout. Vous pouvez mettre un de ces mots sur tout ce que vous vivez à chaque instant, chaque jour. Et dans quel état vous êtes? C'est impressionnant. Oh, ça a 2000, 3000 ans, au moins 2400 ans, dans son élaboration fine. Et ça n'a pas bougé. Et ça ne bougera jamais. Même actuellement, dans les polémiques politiques, vous voyez, eh bien, c'est pas bien. Ou c'est bien. Telle attitude, c'est mal. Ou c'est bien. Pourquoi on porte plainte? Pourquoi il y a des juges? Parce que il m'a fait du mal. Voilà. Donc il y a un mal et il y a un bien. La loi humaine, qu'on appelle positive, celle qui est posée pour le moment, discerne entre ce qui est bon ou mauvais pour la vie sociale. Le bien et le mal sont deux notions absolument vraies, si vous voulez. On ne s'en sort pas. Ou quelque chose est bien, une parole, un acte, ou elle est mauvaise, elle est plus ou moins mauvaise, quelque chose est plus ou moins bon. Ça fait partie de ce qui est bon, ça fait partie de ce qui est mauvais. Il y a des choses plus ou moins graves, comme par exemple ne pas tenir une porte à quelqu'un qui arrive derrière vous, mais ne pas tenir une porte à une vieille dame, ne pas tenir une porte à une personne qui a une béquille, ne pas tenir une porte à quelqu'un qui est en fauteuil roulant, ne pas tenir une porte à quelqu'un qui a les bras encombrés de paquets. Et bien, ce sont des degrés. Dans le mal, il y a pas tenir une porte, c'est quand même pas. Ben oui, mais c'est un mal. Alors, si la personne est à 500 mètres, est-ce que c'est un mal de pas tenir la porte? Ou il est à l'autre bout du quai du métro, et vous êtes là, vous voyez quelqu'un qui quitte le métro et qui marche vers la sortie. Et vous, vous êtes déjà à la sortie, vous avez poussé la porte. Et là, vous vous dites. Est-ce que c'est bien ou est-ce que c'est mal de tenir la porte ou de ne pas la tenir? Eh bien, ça s'appelle le jugement de conscience. Et en permanence, d'une manière insensible ou sensible, vous appréciez tout ce que vous faites parce que vous êtes des êtres humains. Les animaux ne s'en occupent pas. Ils n'agissent pas en conscience, ils agissent par instinct. Vous pouvez toujours reprocher à un chien de ne pas faire ce que vous lui demandez, ou à un chat, c'est injuste. Mais il est paresseux, il est ceci, il est cela. C'est ce qu'il ressent qu'il va faire. Il ne réfléchit pas. Et elle dit, oui, mais quand même, il est roublard, il ment. Hein, il fait semblant de... Et puis, en fait, il revient. Mais il ne réfléchit pas. Il est dans l'instant. S'il voit que vous empêchez ce qu'il veut faire, il ne le fait pas. Dès que vous partez, il le fait. Mais lui, c'est pas... Il analyse pas votre... profondément, si vous voulez, votre attitude, votre psychologie. Vous êtes là, vous n'êtes pas là. Ouais. Il vous voit, quand même. Et l'animal est dans l'instinct, mais enfin, il n'est pas, si vous voulez, c'est pas une plante. Tandis que nous sommes des machines à juger. Or, c'est pas une machine que juger. Apprécier entre le bien et le mal, c'est pas de la machine. C'est extrêmement fin, c'est extrêmement spirituel. C'est très abstrait. C'est très abstrait. Et donc, vous voyez un pigeon qui a fait un nid sur votre balcon ou sur le rebord d'une fenêtre. Alors, c'est bien ou c'est mal de retirer le nid? Bon, il n'y a pas d'œuf. Mais le pigeon, il ne comprend pas. Il revient sur le rebord du balcon et il n'y a plus de nid. Alors, le temps qu'il va ailleurs, vous voyez, il va prendre ses œufs ailleurs. Alors, mais s'il y a déjà des œufs, mais vous avez tout le devant, vous avez fait un ravalement, tout ça, il y a vos voisins qui disent, attendez, vous avez un nid de pigeon. Hein? Ça fait 2 ans seulement qu'on a fait un ravalement, hein? On va pas avoir des fioles le long du mur, des choses comme ça, vous dégagez le nid. Alors si vous dégagez un nid de pigeon, eh bien, le pigeon ne pourra plus. Dès qu'elle sent que c'est pas son nid, pas la manière dont où il était, c'est fini. Les œufs sont morts. Hein, elle ne viendra plus. Si vous déplacez le nid à un endroit ou machin, tout ça, non. Ou vous tuez les 2 œufs, ou vous les tuez pas, et vous avez vos voisins contre vous, tout ça. Enfin voilà, vous avez un problème cornélien entre le bien et le mal. Et qu'est-ce que vous faites des œufs? Bon, si vous êtes cynique, hein, vous dites à quel moment, tiens, je vais les faire cuire, et puis je vais voir si. Et si en les ouvrant, vous voyez qu'il y a déjà le petit oisillon. Voilà, mais vous voyez, c'est. Je vous prends des exemples idiots, hein, et on va prendre d'autres exemples jusqu'aux enfants, que j'espère que vous aurez. Alors, c'est le bien et le mal, vous êtes là. Qu'est-ce que vous faites des œufs, au fait? Vous les jetez? De toute façon, bon, s'ils ne sont pas au chaud, ils vont plus se développer. C'est affreux, un petit oisillon dans la poubelle qui casse l'œuf 10 minutes plus tard ou un jour plus tard. Qu'est-ce que j'ai fait? Alors, pour être sûr, vous écrasez l'œuf, voilà. Vous voyez, mais ce sont ce qu'on appelle des problèmes de conscience. C'est bête, hein? Alors, voyez-vous, nous sommes confrontés. Oui. Ça n'a pas marché. Nous sommes confrontés à un jugement entre le bien et le mal sans arrêt. C'est, par exemple, voilà. Est-ce que je coupe ou pas le chauffage au mois de mars dans la copropriété? Il y a des locataires, il y a des personnes âgées, il y a des personnes très frileuses. Et vous aurez remarqué que quand on apprécie le bien et le mal, les autres n'ont pas forcément notre appréciation. Et toute dispute vient qu'on apprécie le bien ou le mal différemment. Vous voulez acheter un appartement. Vous voulez louer un appartement. Vous voulez cet appartement-là ou cet appartement-là. Vous voulez ce bien ou un autre bien. L'autre n'est pas content. Il dit non, moi je voudrais plutôt ça. Vous choisissez une destination de voyage. Vous choisissez un restaurant. Est-ce qu'il est bien de prendre ce restaurant meilleur que celui-là? La nourriture était mauvaise. Le service était lent. Est-ce que le service doit être ni trop lent ni trop rapide? Mais ni trop lent plutôt. C'est un mal que le serveur soit lent. C'est un mal que l'addition soit fausse. À tout moment, il y a une appréciation entre le bien et le mal. On ne s'en sort pas. Et dans certaines civilisations, on en arrive au manichéisme, c'est-à-dire c'est blanc ou noir. Hein. Il y a très peu de nuances, on laisse aux circonstances atténuantes un jugement précis sur ce qui est bien, bien et mauvais, mauvais. Eh bien, dans une vie de couple, je peux vous assurer que vous avez 1000 occasions de savoir ce qui est bon ou mauvais. Laissez vos affaires comme ci, faire comme ça. Hein, on parlait de la cigarette la dernière fois. L'un fume, l'autre ne fume pas. Alors comment en plus dans la société merveilleuse dans laquelle nous vivons, vous avez la bien-pensance. Hein, donc, fumer est un crime contre social, c'est-à-dire que vous provoquez des déficits abyssaux à la sécurité sociale, vous aggravez la couche d'ozone. C'est terrible. Donc on vous présente des photos absolument abominables sur les paquets. De toute façon, maintenant, ils seront neutres. Et bon. Alors, qu'est-ce que la passion ? La passion, c'est le mouvement vers un objet. Un titre principal, la passion, est d'abord corporelle. Il faut prendre l'exemple de l'alimentation. Vous êtes porté vers la nourriture, naturellement. Vous aimez ce qui est comestible et vous n'aimez pas ce qui n'est pas comestible. Au point de vue de l'alimentation, qu'est-ce qu'un bien ? Eh bien, c'est ce qui est un aliment comestible. Et qu'est-ce qu'un mal ? C'est un aliment pas comestible, c'est du poison. Et puis c'est tout, enfin, il n'y a pas trop de nuances dans l'alimentation. Ce qui fait que vous allez aimer tel plat, parce que non seulement il est comestible, mais en plus il est au goût très agréable. Alors, par exemple, vous allez prendre un magret de canard et vous allez le présenter sur un plat. Ou alors, vous allez le mixer et le présenter dans un verre. Ce sera exactement la même nourriture. La même quantité d'atomes, la même valeur nutritionnelle. Mais seulement, nous ne sommes pas des animaux. Sans intelligence. Et nous comprenons que nos plats peuvent être changés, peuvent être beaux, peuvent être décorés, comme ci, comme ça. Que la table peut avoir une nappe, que les verres peuvent être, avoir cette forme-ci ou cette forme-là. Le lion, vous savez, quand il mange une gazelle, il ne va pas apprêter une table, il mange directement. Et tous les animaux font ça. Aucun animal n'apprête sa nourriture. Sauf l'homme. Donc il y a un bien supplémentaire au fait d'être comestible. C'est doit être agréable à la vue. Et puis on va rechercher des sensations de goût différentes. On va cuisiner. Est-ce que c'est anodin de cuisiner ? Vous voyez ? Sinon, vous voyez, vous achetez la nourriture, vous la mixez, et tous les soirs, vous prenez la soupe, quoi. Vous n'allez plus jamais au restaurant parce que c'est inutile. Mais voilà, et vous vous rendez compte un peu ? Eh bien, l'amour et la haine, c'est une passion par rapport à ce qui est bien ou ce qui est mal. L'amour, c'est la passion radicale qui nous fait aller vers le bien. Mais aller de manière générale, c'est-à-dire être pour le bien. La haine, c'est notre réaction générale pour le mal. Vous avez fait un gâteau magnifique, un soufflé, un vrai soufflé, bien réussi et tout, et il échoue. Et vous l'apportez à table. Il y a des personnes qui ont des crises de nerfs parce qu'elles ont raté un gâteau. Parce qu'on hait le gâteau raté. Alors, haïr le gâteau raté ou le plat trop salé, ça se comprend, parce que c'est un mal. Enfin, il ne faut pas faire un plat. Est-ce que c'est un mal absolu ? Preuve, là. C'est impressionnant, hein. Vous avez des gens qui... qui ont des passions, qui sont très passionnés. Qu'est-ce qui nous porte ça? Ce sont des passions, alors fondamentales, l'amour et la haine. Je vous apprends rien. Et oui, mais toute votre vie est entre le bien et le mal, et entre l'amour et la haine. Enfin, haïr le fait de ne pas retrouver ses clés tout de suite, on va quand même pas se rouler par terre et hurler. Et pourtant, vous avez des personnes fatiguées, on ne trouve pas les clés de la voiture tout de suite, et on engueule tout le monde. Ou alors, vous avez un rendez-vous. Vous voulez absolument voir ce film. C'est un bien, ce film. C'est agréable. Il y a une histoire, il y a un scénario, il y a de très bons acteurs et tout. Et on est en retard. Donc il y a un mal qui se profile. C'est de rater le film. Et vous avez la haine de rater le film. Mais vous voyez, c'est je mets des mots sur ce que vous vivez tous les jours. On a la haine du mal. Ou du bien perdu. Un bien perdu, c'est un mal. C'est l'absence d'un bien. Et tout est comme ça. Vous voyez, vous allez chez le coiffeur. Il vous rate. Bon, au bout de 3-4 jours, c'est bon, ça sera compensé, si vous voulez. Enfin, vous n'allez pas payer 17 euros, 20 euros ou 45 euros pour être raté. Enfin, c'est pas... Il doit travailler bien. Je veux avoir la coiffure parce que tous les matins, je vais me coiffer. C'est impressionnant, hein? Est-ce qu'il y a beaucoup de personnes qui sont indifférents à leurs cheveux? Très peu. Avoir une coiffure qui nous plaît est un bien. Et on a la haine d'être mal coiffé. C'est amusant, hein. Mais on a la haine d'avoir des vêtements sales. On a la haine d'avoir des vêtements pas repassés. Une chemise froissée au bureau ou quelqu'un qui est un ouvrier du bâtiment qui se moque complètement de... S'il est plein de plâtre, hein, s'il a bien travaillé, tout ça, il a fait ci, il a fait ça, à un moment donné, il veut quand même que ça soit lavé, que ça soit propre pour recommencer à un moment donné. Eh bien, qu'est-ce qui est un moteur vers le bien? Le moteur fondamental, c'est aimer le bien et éviter le mal. Amour et haine. Eh bien, une passion plus précise que la passion générale d'amour et la passion générale de haine, c'est le désir. Vous désirez le bien, c'est-à-dire vous allez vers le bien, vous allez rechercher le bien. Et dans l'éducation des enfants, ce tableau tout bête va vous faire comprendre tout l'enfant, toute l'enfance, du bébé, jusqu'à l'enfant, le pré-ado, l'ado, et votre conjoint, vos parents, vos beaux-parents, et tout le monde. L'enfant, lui, il est brut de pomme, mais il est quand même un être spirituel. Il a un corps animal, mais lui peut mentir. Lui peut jouer avec vous. Et même un enfant de 6, 8 mois, 1 an, peut commencer déjà à jouer avec vous. Parce que lui, il réfléchit dans son coin. Il dit, quand je fais ça, il y a ça. Et quand je fais ça, il y a ça. Quand je fais pas ça, il y a ça. Et il le comprend. Et il le comprend de manière extraordinaire par rapport à un animal. Pourquoi? Parce qu'il est intelligent, véritablement intelligent. Il abstrait tout ce qui se passe. Il réfléchit sur ce qui se passe. L'animal, lui, vit en permanence. La mémoire animale nous donne une impression d'intelligence. Mais c'est la pure mémoire. L'être humain, lui, va au-delà de la mémoire. Il associe les idées. Eh bien, le désir, l'enfant, lui, il désire ce qui est bon. Vous éduquez le goût d'un enfant. Si vous lui donnez toujours des choses bonnes, eh bien, il va connaître que des choses bonnes. Et si à un moment vous lui donnez des légumes, il les prendra pas. Hein. Si vous donnez des choses au goût plus compliqué dès le début, il ne connaîtra que ça. Mais le jour où vous allez lui donner une compote bien sucrée, tout ça, oh. Si vous ne voulez pas avoir des enfants capricieux, ben vous ne leur donnez pas ce qu'il y a de meilleur tout de suite. Parce qu'ils voudront ce qu'il y a de meilleur. C'est normal. Et ils vont le désirer. Par exemple, ressentir la chaleur, être dans les bras de leur papa ou de leur maman, c'est mieux que d'être sur son lit, par terre. Donc ils vont vouloir être pris dans les bras. C'est un tour de manège aussi. Hein. N'oubliez pas qu'un enfant, par rapport à un adulte, c'est comme si nous faisions 4 mètres. Vous êtes pris par quelqu'un qui a 4 mètres. Je ne sais pas si c'est dans un parc d'attractions, si vous aviez des géants de 4 mètres qui étaient là, vous seriez là pour payer 5 euros pour qu'un géant vous emmène et vous prenne dans ses bras. Sûr, même des adultes. Hein. Ah, sûr de sûr. Et même 4 mètres, pour nous, non, il faudrait 6 mètres, hein, une personne de 6 mètres. Et là, on serait fou de
voilà, et puis hop, tout ça.
Et il nous jette en l'air. Donc, non mais, excusez-moi de vous... C'est de la psychologie enfantine que je vous donne. L'enfant veut ce qu'il y a de meilleur. Il veut des sensations, il veut être consolé. Et si vous lui donnez tout sur un plateau, eh ben, il ne prendra que ce qu'il y a de meilleur. Alors je vous dis pas, eh ben je le prends jamais dans les bras. Voilà. Ça, il sera éduqué à la dure et tout ça. Mais non. On a besoin justement de se prendre dans ses bras. C'est tout un équilibre. Eh bien, ce désir du bien, quand on le possède, eh bien il y a une passion qui est extraordinaire. C'est le bien possédé. Et c'est la joie. Alors là. C'est géant, c'est-à-dire que, c'est, comme disent nos contemporains, c'est jouissif. C'est la joie. Mais la joie est une passion extrêmement forte. C'est de posséder le bien. Voyez ? Vous voyez un objet, un vêtement, c'est déraisonnable, c'est à 500 euros, c'est... Vous voyez une montre, elle est à 10 000 euros, mais elle est... Alors il y a plusieurs critères, elle est belle, les gens fortunés ont une montre comme ça, voilà. Si t'as pas une Rolex à 50 ans, c'est que t'as raté ta vie. Donc il y a des must. You must have this. Donc pourquoi ? Mais pour être joyeux. Mais la joie, ça peut être de... un enfant part en classe de nature. Il sait qu'il va revoir ses parents dans une semaine. Donc il n'y a aucune raison en soi que l'enfant, voyant sa mère au bout du quai, part dans un état délirant et court et se jette dans les bras de sa mère. C'est pas raisonnable. Mais c'est maman. C'est une personne très gentille, c'est un grand bien pour moi. Et je l'aime, parce que c'est un bien. Elle m'a toujours fait du bien, elle a toujours été fidèle, elle a toujours été là. Un enfant adoptif à qui vous ne dites pas qu'il a été adopté, vous lui dites à 18 ans, vous lui dites à 14 ans, vous lui dites à 20 ans, vous lui dites à 40 ans. Il sera troublé, parce qu'il voit comment une mère s'occupe de son enfant. Et si vous lui dites que vous l'avez adopté alors qu'il avait 2 semaines, Et il y aura des gradations pour lui de reconnaissance par rapport à une autre personne qui s'est occupée de lui. Une gratitude. Et puis, quand bien même vous l'auriez adopté au bout de 2 semaines, il y a quelque chose qu'on ne peut pas arracher à l'intelligence humaine. C'est qu'on comprend qu'on doit la vie à cette femme. Ou qu'on doit la vie à cet homme. Et on ne peut pas le retirer de notre tête. Ensuite, si on a du cœur, on peut quand même comprendre que ceux qui sont occupés de nous depuis l'âge de 2 semaines nous aiment beaucoup. Ils sont nos parents adoptifs. Oui, mais transmettre la vie, c'est quelque chose d'extraordinaire. Et même si le père, vous voyez, vous aviez une prostituée, fille de prostituée, qui était là et qui dit mon père, je ne le connaîtrai jamais, c'est un client de ma mère. Mais j'aimerais le voir au moins une fois. Voir quel était son visage. Vous rendez compte un peu? Et un jour, comme ça, il y avait un homme qui a eu une relation comme ça avec une femme. 10 ans plus tard, alors qu'il s'était occulté, enfin, il s'était même pas ensemble particulièrement. 10 ans plus tard, il a su qu'en fait, il était le père de l'enfant qu'elle avait. Et comme cet enfant l'a su que son père n'était pas son père, et ben, du coup, depuis, il se voit. Et lui, qui n'a jamais partagé quoi que ce soit avec la mère de son enfant, le fait que ce soit son enfant, il est... C'est son enfant. Il y a quelque chose de... L'animal, il s'en fout, mais complètement. Les petits, les animaux, réfléchissez 2 secondes. Vous voyez, quand on vous dit... Il y a eu le film Lucie là de Luc Besson. C'est quand on y réfléchit 2 secondes, c'est ignoble comme film. C'est amoral au dernier degré quoi. Enfin, on est une clé USB quoi. Enfin, on est de la polarité dans les cellules quoi, entre les atomes quoi. On est du courant électrique. On est des la vie c'est les ondes électriques. Entre atomes, quoi, qui nous explique ce qu'on était il y a 1 million d'années. C'est la mémoire de l'eau. c'est la mémoire électrique. Vous voyez, quand elle arrive dans la salle d'opération et que les atomes lui disent il a un cancer, parce qu'elle est connectée avec tous les atomes du monde. Hein, donc, alors, boum, boum, elle l'achève, quoi. Il va mourir dans 2 ou 3 ans, c'est con quoi, de l'opérer pour rien. Retirez-moi ça parce que bon, j'en ai marre, quoi. Ça me stimule tellement le cerveau que j'en peux plus. Quoi. Voilà. Donc il a encore la poche qui est à moitié déchirée, retirez-moi ça. Voilà. Mais elle a viré le bonhomme, et ensuite, lorsqu'elle monte la rue de Rivoli et qu'elle écrase tout le monde, là, il y a le commissaire qui dit, mais quand même, c'est pas bien. Et elle dit, on meurt pas vraiment. Puisqu'on est des sacs d'atomes, on est dissocié. C'est sûr, quand vous écrasez quelqu'un, son corps est dissocié. Donc, il n'arrive plus à respirer comme avant. Et vous voyez, excusez-moi, mais c'est profondément immoral. Hein. Et c'est un enseignement terrible hein, qui est là. Il dit, on est le fruit d'une évolution du hasard et du temps. Eh bien, merde, c'est faux. On est des êtres intelligents et qui ont été créés par un être intelligent. Je ne vais pas oser le mettre sur le site. Alors, vous voyez, les passions, c'est le désir pour obtenir le bien qu'on vise et pour être joyeux. Vous voyez, Dieu nous a créés pour chercher librement le bien, l'obtenir et être heureux. Joyeux. Si vous savez, à quoi servent les moustiques? À nourrir les grenouilles, les oiseaux, et c'est tout. Quoi. Dieu les a créés pour ça. Et pour nous faire, faire pénitence quand ils nous piquent. Ouais. Et chaque animal a sa fonction. Et bien l'homme alors. Être heureux. Un moustique n'est pas heureux. Mais même un chien ressent du plaisir. C'est pas de la joie qu'il ressent, c'est du plaisir. Alors il peut y avoir un plaisir de situation qui est vraiment très très proche de la joie spirituelle. Et c'est pour ça qu'on aime les chiens. On aime moins les chats. Pourquoi ? Parce qu'ils expriment leur plaisir d'une manière très différente. Ils ronronnent. On partage de la joie avec eux. Et vous voyez, vous êtes là, c'est un grand moment d'intimité. Et puis il y a une andouille dans la cuisine qui agite le paquet de croquettes. Et là, votre amitié profonde est exprimée. Le chat, il s'en va. On était à un moment, enfin, il pourrait attendre d'aller pour aller manger. Alors les enfants, eux, à table, s'ils ont une super conversation avec un copain, eux vont préférer continuer à parler plutôt que d'aller manger. Sauf s'ils ont 6 ans. Là, ils sont moins spirituels. Et encore, vous avez des enfants qui sont plus spirituels. Mais si vous voulez comprendre un être humain, un enfant, un bébé, il faut savoir qu'est-ce qu'il veut de bien. Qu'est-ce qu'il recherche en ce moment? Qu'est-ce qui fera son bonheur? Et vous, si vous voulez vraiment bien éduquer vos enfants, vous devrez leur donner ce qu'il y a de meilleur. Et ce n'est pas forcément ce qu'on donne tout de suite. Par exemple, voyez-vous, dans l'ancien temps, on voulait transmettre un métier, un savoir-faire à des jeunes. Et on leur imposait. Quand on a multiplié l'écriture, on a voulu apprendre à tout le monde à écrire et à lire. Alors que bon, pendant des siècles, les gens, y a beaucoup de personnes qui savaient ni lire ni écrire et qui vivaient très bien, honnêtement. Bon, on a voulu apprendre à tout le monde à lire et à écrire. Mais notre société est faite pour ça aussi. Tout est écrit, tout est machin, c'est bon. Donc un enfant, si vous dites, ah ben moi je crois qu'il sera heureux sans lire et écrire, ben, vous allez le mettre en difficulté. Mais si c'est un enfant qui n'aime pas étudier ce qui est spéculatif, vous voyez, la querelle sur l'apprentissage, l'école, le sortir de l'école à 12 ans, à 14 ans, à 16 ans, c'est par rapport à ce qu'on aime et ce qui est bon pour nous, ce qui est agréable vraiment pour nous. Il y a des personnes, mais elles se foutent de connaître l'anglais, mais franchement.
C'est faux d'anglais.
Et